France Inter.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au programme du 5-6. Ce matin, on plonge avec une grande reporter spécialiste de la mer. Zoom à 5h40 sur la parité en politique et ses obligations toujours pas respectées. Notre invitée, déjà debout, est éleveuse de brebis dans le Cantal. Elle nous invite à un concert dans sa grange, ça sera à 6h moins le quart. Et puis des thèmes éternels aussi avant 6h. Questions sur la mort des dinosaures dans les petits bateaux, les fratries et la fraternité dans le Café Philo. Et dans la playlist, il sera question de tennis et de moto. Allez, on fait ronronner les moteurs, c'est parti. Je vous accompagne jusqu'à 9h sur France Inter.
France Inter.
Et ça commence avec le journal de Tristan Barraud. Bonjour Tristan.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Et à la une, l'annonce choc du ministère de la Santé.
Dans les parcs, les jardins publics, à la plage, aux abords des écoles, interdiction de fumer à partir de cet été, le 1er juillet, partout où il peut y avoir des enfants, amende à la clé, 135 €. Objectif génération sans tabac en 2032, une mesure largement validée par ceux qui ont des enfants. Reportage à Paris, Sarah Mansoura.
Dans les allées du parc Montsouris, les enfants courent dans tous les sens, sous l'œil de parents attentifs. Beaucoup, comme Julien, accueillent cette interdiction avec enthousiasme.
En tant que parent, ça me convient tout à fait que mes enfants ne subissent pas du tabagisme passif. Ça ne me gêne pas plus que ça qu'on réduise ce type de liberté, parce que ceci va protéger les fumeurs. Je veux dire, on connaît tous les dangers liés au tabac, les maladies potentielles. Donc je pense qu'en termes de liberté, il y a des libertés plus utiles que celle-là.
La liberté de fumer s'arrête là où commence le droit des enfants à respirer un air pur, souligne la ministre de la Santé.
Ah bah complètement.
Et Valérie pense aussi au droit des enfants de profiter des espaces extérieurs.
Moi j'ai été fumeuse avant pourtant, mais on n'a pas forcément conscience à quel point ça peut être gênant déjà pour les non-fumeurs, et en particulier pour les enfants. Finalement, c'est les enfants qui se retrouvent à devoir être remis à l'intérieur, alors qu'ils voudraient profiter peut-être aussi des extérieurs comme les adultes.
Certains vont même plus loin, comme Jeanne, mère de deux enfants.
Moi je suis extrêmement contente, je pense que même on devrait interdire dans la rue.
Son amie Magali acquiesce.
C'est à hauteur des enfants, donc du coup nos enfants ils l'ont en pleine figure, ils voient, ils peuvent être brûlés en fait.
On n'est pas censé boire dans la rue, on n'est pas censé faire plein de choses dans la rue, donc je me dis ça peut être une chose en plus, c'est peut-être une habitude qui est bonne à perdre.
Elles insistent aussi sur l'exemple à donner aux plus jeunes, moins ils verront de fumeurs, mieux ils se porteront, présume-t-elle.
Et le non-respect de l'interdiction pourra donc engendrer 135 € d'amende. Atterrissage d'Emmanuel Macron à Singapour, dernière étape de sa tournée asiatique. Il doit prononcer un discours en inauguration du plus grand forum sur la sécurité et la défense en Asie. Il entend présenter la stratégie indo-pacifique de la France que le président voit comme une troisième voie entre les États-Unis et la Chine.
Et puis Donald Trump attaque Harvard, la justice bloque.
Alors que les autorités américaines avaient interdit à la prestigieuse université d'accueillir de nouveaux étudiants étrangers, l'administration lui reproche de laisser l'antisémitisme prospérer sur le campus. Une juge vient de suspendre finalement la mesure. Sébastien Paour, soulagement à Harvard, qui remettait hier ses diplômes.
Ils ont déjà posé leurs valises sur la Marienplatz au cœur de Munich. Les supporters du PSG donnent de la voix. Certains sont arrivés très en avance dès mercredi pour Ramzi, fidèle abonné du Parc des Princes.
Depuis la demi, on se regardait, on se disait, on prend les billets directement. L'arbitre, il a sifflé, on est parti, on a regardé, on a booké l'hôtel, on a booké le vol. Et là, on est là. Faut qu'on la ramène à Paris.
1 200 € le billet tout de même, mais c'est le match d'une vie aux côtés de son ami Booba, agréablement surpris par l'ambiance à Munich.
Sincèrement, c'est fou, c'est la première fois que je vis ça. Franchement, c'est super bien organisé, c'est top quoi.
Les supporters milanais de l'Inter, eux aussi, marquent leur territoire. Les premiers sont arrivés dans la fan zone installée au parc olympique dans le nord de la ville. Et Sandro est très méfiant.
La finale est sempre...
Une finale, c'est du 50-50. Mais je peux dire que enfin, cette année, le PSG joue vraiment comme une équipe avec intelligence. C'est une très belle formation. Barcola, Gvara, l'ancien du Napoli, un très grand joueur. Ce sera très difficile.
Et les supporters de chaque équipe qui ne seront pas au stade auront leur espace dédié dans le centre de Munich pour suivre la rencontre sur écran géant demain soir.
Et c'est bien Xavier Montferrand que nous venons d'entendre à Munich avec les supporters du PSG et de l'Inter Milan avant la finale de Ligue des Champions. À Paris, c'est au Parc des Princes que les supporters pourront suivre le match demain soir sur écran géant. XXL sera le dispositif de sécurité dévoilé par la préfecture de police et jusqu'à dimanche, puisqu'en cas de victoire, les joueurs parisiens s'offriront une parade sur l'avenue des Champs-Élysées. Les autorités anticipent autant de monde qu'un 31 décembre pour le feu d'artifice, c'est-à-dire près d'1 million de personnes.
Et donc Tristan, on revient revient à Harvard avec la justice qui a bloqué les attaques du président des États-Unis.
Voilà, je vous le disais, les autorités avaient interdit à la prestigieuse université d'accueillir de nouveaux étudiants étrangers. L'administration Trump lui reprochant de laisser prospérer l'antisémitisme. Une juge vient de suspendre la mesure, Sébastien Paour. On va entendre donc le soulagement à Harvard qui remettait hier ses diplômes.
Anikit Shroff pose fièrement avec ses parents devant l'entrée du campus. L'étudiant de Dubaï en robe et chapeau rouge et noir vient de recevoir son diplôme en gestion des systèmes d'information. Il est soulagé que la justice ait bloqué pour l'instant l'offensive de l'administration Trump contre les étudiants étrangers. C'est symbolique que ça tombe pendant la cérémonie de remise des diplômes. J'ai vu le message tomber et le juge qui donne raison à Harvard, ça devait arriver. Parce que la liberté d'éducation existe comme la liberté de parole dans ce pays. Et personne ne peut s'y opposer. Pierre, lui, est doctorant en informatique au MIT voisin depuis 3 ans, l'Institut de technologie du Massachusetts. Après des études en génie mécanique en Europe, il déplore la stigmatisation dont sont victimes les étudiants étrangers.
La vaste majorité des étudiants qui viennent ici viennent pour chercher une vie meilleure, un peu le rêve américain, je dirais. Et on se retrouve à être soupçonné de vouloir intenter une déstabilisation politique du pays, ce qui n'est pas du tout le cas, et une grossièreté intellectuelle. Donc cette oppression est malheureuse. Et souvent, la blague qui est faite, c'est que Trump ne durera pas toujours, mais Harvard sera toujours là.
Les étudiants les plus inquiets se tourneront d'après lui vers d'autres très bonnes universités, en Chine ou en Europe. Cambridge, Massachusetts, Sébastien Paour, France Inter.
Les droits de douane imposés par Donald Trump depuis un mois et demi, bloqués en première instance hier par un tribunal de commerce qui jugeait illégal la manière dont ils ont été mis en place, eh bien ils restent en vigueur finalement, ils sont maintenus temporairement par une cour d'appel américaine, le temps d'une décision sur le fond. Donald Trump espère que la Cour suprême reviendra rapidement et fermement sur, dit-il, cette horrible décision qui menace le pays. Pas de cessez-le-feu pour l'instant dans la bande de Gaza, en dépit de la proposition américaine signée par Israël. Le Hamas considère qu'elle ne répond pas à ses demandes, c'est-à-dire l'arrêt de la guerre et de la famine, selon les mots de l'un de ses dirigeants.
5h07 sur France Inter. En tennis, seulement 3 Français qualifiés pour le 3e tour de Roland-Garros.
Et ils ont entre 20 et 22 ans. Arthur Fils d'abord, le numéro 1 français, puis Elsa Jacquemot et Loïse Boisson. Les deux s'affronteront d'ailleurs samedi. Élimination hier de Gaël Monfils et de Richard Gasquet, désormais à la retraite. Sa carrière qui a été saluée par Raphaël Nadal. Ton talent a été reconnu dans le monde entier, écrit celui qui a gagné Roland-Garros 14 fois et qui lui aussi vient de prendre sa retraite.
Excusez du peu, il est 5h07 sur France Inter, c'était le journal de Tristan Barraud.
La météo avec le baume Hydra-Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Et il fait de plus en plus chaud, Elodie Calac.
Soleil et chaleur au programme. De la Bretagne vers la Normandie et les Hauts-de-France, le soleil doit tout de même se débarrasser des nuages bas et des brouillards assez nombreux ce matin. Ils vont se morceler progressivement en cours de matinée. Partout ailleurs, c'est du soleil. Le Mistral fait encore un peu parler de lui ce matin en vallée du Rhône, mais il va s'essouffler. Cet après-midi, ça va devenir un peu plus nuageux de la Bretagne à l'Aquitaine et ça tournera à l'orage au sud de la Garonne en fin de journée avec un vent d'ouest qui se renforcera. Les températures poursuivent leur hausse. Ce matin, comptez 10 à 15 degrés jusqu'à 17 sur la côte aquitaine et 16 à 20 en Méditerranée. Cet après-midi, la chaleur va monter d'un cran et va remonter vers le nord. Ça restera plus raisonnable vers la Manche avec 20 degrés à Granville, 26 à Lille, 29 à Reims, Colmar, Dijon, 31 degrés à Paris, Nantes et Lyon, 32 du côté de Bourges, 33 à Limoges et à Nîmes, 34 à Montauban et 35 à Bordeaux.
Elodie Calac de Météo France.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
5h09, à suivre sur Inter, une reporter passionnée de mer, de la surface aux abysses, elle sera dans les chroniques littorales. Avec notre invité déjà debout, à 6h moins le quart, on dégustera en musique du fromage de brebis. Gastronomie encore, mais quand les violences envahissent la cuisine, ça c'est la chronique d'où ça sort. Et puis le transport sanitaire et les taxis, dans le viseur de Charline Vanhoenacker, elle explose les faits à 5h25. Dans quelques minutes donc, les chroniques littorales, mais d'abord, une trompettiste et chanteuse canadienne, Saya Gray, Shell of a Man. Bon réveil en douceur sur France Inter. Yeah.
If
Shell of a Man de Saya Gray, extrait de son dernier album Saya, 5h13 sur France Inter. C'est l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Emmanuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Les chroniques littorales du vendredi consacrées à des portraits de gens de mer. Et ce matin, c'est une passionnée de la mer, de l'océan dans tous ses aspects.
En la personne de Stéphanie Brabant, Marion, grand reporter et grand reporter pas n'importe où, à Thalassa. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Alors 35 ans de grand reporter à Thalassa, vous avez bien sûr connu Georges Pernoud, vous êtes une fana bien sûr de la mer, de l'océan, comme nous tous, et navigatrice.
Oui, je suis passionnée. Je dois dire qu'au départ, je connaissais peu la mer, hein, mais grâce à Georges Pernoud, grâce à Thalassa, en 35 ans, j'ai eu l'occasion de vivre des aventures absolument incroyables, tant sur la mer que dessous et dans le monde entier. Ça a été vraiment formidable, et puis de rencontrer des personnalités aussi incroyables du monde maritime, hein, de Olivier de Kersauzon, aux scientifiques de l'Ifremer.
Et du CNRS aussi, le GDR au mer.
Bien sûr. Le dernier reportage que j'ai fait était avec un scientifique du CNRS spécialisé dans les coraux d'eau profonde. Ces scientifiques qui aujourd'hui sont aussi plongeurs et sont capables de plonger à près de 200 mètres de fond, hein, voire parfois un peu plus, pour étudier les coraux, les habitants de ce monde obscur.
Donc voilà, une passionnée de la mer et de l'océan.
C'est ça.
Bienvenue.
Ouais, merci. Je trouve que l'océan, c'est vraiment un milieu extraordinaire parce que dans l'océan, vous êtes obligé d'être humble. C'est tellement plus fort, plus grand, plus merveilleux que vous. Vous vous sentez tout petit et c'est fascinant et c'est d'une telle diversité. C'est la plus grande ressource animale de la planète. Hein. Enfin, c'est la plus grande richesse.
Enfin, c'est quand même d'abord, c'est notre avenir, mais il faut le protéger. Hein.
Bien sûr. Il faut protéger ce qui est à la surface autant que ce qui est sous la surface, qu'on ne voit pas, qui absorbe notre carbone, une ressource très importante. On est en train en ce moment d'établir un code minier, mais rien n'est gagné. On a parlé d'exploitation minière.
C'est même pas la peine d'y penser, là. C'est une pure folie de vouloir faire des mines dans les grands fonds.
Et pourtant, on sait que c'est plus un fantasme, hein, que depuis 2022, depuis que The Metal Company, la compagnie canadienne, a extrait 14 tonnes de métal, on sait que c'est plus un fantasme. Heureusement, il y a l'AIFM, l'autorité internationale des grands fonds marins, qui se bat pour établir un code minier, mais pourvu que l'on protège les océans.
Pourvu, parce que tout ça, on l'explique, parce que dans les grands fonds, il y a les métaux rares, et bien sûr, certains sont avides de ces métaux rares.
Des ressources minérales, oui.
Vous naviguez aussi à titre personnel.
Enfin, j'ai un petit écume de mer avec mon père qui me permet de faire des balades en Bretagne, dans la baie de Morlaix.
Qu'est-ce que c'est qu'un écume de mer ?
C'est un petit voilier, un petit dériveur de 9 mètres modeste. Mais j'ai eu la chance de pouvoir embarquer avec un ami propriétaire de bateaux de Boréal, fondateur de ces voiliers. J'ai pu aller en Patagonie et la navigation en Patagonie est extraordinaire sur le canal de Beagle, au milieu de nulle part. C'est très peu construit. On a vu des baleines, des otaries, des phoques. Encore un des derniers lieux préservés, je pense, de la planète. Et ça fait un tel bien de voir peu d'habitations, la mer et ses habitants. Et juste ça, c'est suffisant.
Stéphanie Brabant, que se passe-t-il quand vous naviguez ?
Je crois que c'est un apaisement total de se sentir tout petit au milieu de l'océan, d'un élément qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que vous. Pour moi, c'est un apaisement et ça vous demande d'être dans l'instant présent. Ça demande une vigilance sur le bateau, sur ce que vous avez à faire. Je dois dire que je ne suis pas une très bonne navigatrice parce que je navigue beaucoup avec des amis et c'est eux qui sont des bons marins et moi, je suis la petite main à bord. Mais j'adore ce sentiment, ce qu'on appelle le sentiment océanique, hein, d'être tout petit dans les éléments et de savoir que cet univers fantastique, la plus grande réserve de vie vous entoure.
Vous larguez les amarres bientôt ?
J'espère.
Merci à vous Stéphanie Brabant. Vous avez commis un ouvrage, l'Atlas des Abysses. C'est chez Artaud, c'est écrit avec José Sarrazin et de très belles illustrations de Julie Terrazzoni. Bonne journée Marion Lour.
Bonne journée José-Emmanuel Lamarque, il est 5h17.
Le 5-6 sur France Inter.
Les unes de la presse ce matin et comme l'actualité, la une du Parisien est coupée en deux. À gauche, le coup de frein sur les zones à faible émission. L'Assemblée nationale a voté hier contre l'avis du gouvernement la suppression de ces zones restreintes pour les véhicules polluants. Et le journal francilien nous montre des autos à touche-touche. À droite de la même une jeune fille et son papa qui portent un chien enroulé dans une écharpe décorée d'un écusson Paris Saint-Germain. Les deux sourient à la veille de cette finale de Ligue des champions de football avec en titre cette question « Toute la France derrière le PSG ?» Cette question, le quotidien, l'équipe ne semble même pas se la poser. En une, ce sont des dizaines de sportifs, des hommes quasi exclusivement, qui portent les couleurs des joueurs de foot parisiens. Tony Parker, le basketteur, brandit par exemple une bannière et un drapeau. Ici, c'est Paris. C'est la fièvre des champions, fanfaronne le quotidien sportif avec, je cite, une constellation de stars qui apporte son soutien au club de la capitale. Des grands patrons occupent une place de choix aussi dans vos journaux. Le Figaro a choisi Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX qui s'éloigne de la politique pour relancer ses affaires, titre le quotidien, avec un salut de la main droite de Musk en photo qui en rappelle un autre. Autre patron de l'auto dans les Échos, celui-là, le nouveau venu Antonio Filosa, qui prend la tête de Stellantis. La liste de tous ces dossiers urgents à la tête du constructeur auto est en pages intérieures. En une aussi, le quotidien économique analyse la dernière étape de la guerre commerciale lancée par les États-Unis. La justice, c'est le titre, bloque les tarifs de Trump. Au chapitre économique encore, l'Humanité dénonce ce qu'elle appelle le racket de la TVA sociale. Cette hausse de la TVA, actuellement en réflexion, pour financer la sécurité sociale tout en gardant des exonérations de cotisations sur les salaires. Au rayon, bonne nouvelle, la croix nous réjouit. En photo, une main gantée de plastique, une éprouvette et ses mots qui claquent. Cancer, l'espoir d'un vaccin. Et puisque vous êtes déjà debout ou en train d'émerger, un moment suspendu en une des Échos week-end, c'est le monde de Mont-Saint-Michel qui semble flotter sur une mer de nuages, image onirique. Avec ce commentaire, à l'aube de son deuxième millénaire, le Mont-Saint-Michel se transforme en destination haut de gamme, non sans résistance. Le titre de ce dossier, le réveil de la merveille. C'est vous la merveille. Bon réveil. 5h20. Comme tous les matins à cet horaire, un concept expliqué par Cyril Lacarrière. Aujourd'hui, les violences en cuisine, d'où ça sort ?
Bien franchement, j'ai pensé que j'allais sécher sur le sujet d'où ça pouvait bien venir la violence en cuisine.
Quand j'ai vu la gueule de l'assiette, j'ai dit le mec, il a pas fait ses crêpes sur des crêpières propres. Je me trompe ou pas ? T'as pas d'excuse ? T'as aucune excuse ? Putain, eh ben excuse-moi, heureusement que j'ai pas mangé.
Il se fait pourrir, le restaurateur, mais c'est que de la télé. La violence en cuisine, elle, c'est dans la vraie vie. Mais est-ce que vraiment il y avait un début ? Eh bien, figurez-vous qu'en feuilletant mes grimoires, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Que la grande cuisine française s'est en fait construite comme une armée. Et ce n'est pas une métaphore. Je vous présente Auguste Escoffier, père de la gastronomie moderne. En 1870, il part faire la guerre à la Prusse, il est désigné chef cuisinier du QG, et là, il fait des merveilles. C'est l'historien Antoine Debecq qui raconte. Le cuisinier parvient à organiser son service et son office d'une manière militairement efficace. Fin de citation. Et c'est lui qui, après la guerre, va inventer la brigade de cuisine. Comme dans l'armée, chaque poste a un rôle précis et l'obéissance ne se discute pas, elle ne se négocie pas. Chef de cuisine, sous-chef, chef de partie, commis, saucier, rôtisseur, légumier, chacun a sa place. À l'époque, c'est un immense progrès car ça permet de rationaliser le travail et d'être plus efficace. Mais ça a un effet pervers, cela instaure en cuisine une culture ultra hiérarchique et ultra verticale. Le chef hurle parce qu'il est passionné, la petite main est humiliée, c'est ça l'apprentissage, et un jour, cette personne aussi humiliera les autres, et c'est ainsi que s'est installée la violence en cuisine.
Et la suite, c'est dans le replay de Zoom Zoom Zen à réécouter sur le site de France Inter sans interruption. On s'excuse pour ce petit bug technique que vous avez peut-être entendu. Donc c'était Cyril Lacarrière dans l'émission de Mathieu Noël. Tous deux reviennent à 16h cet après-midi. Il sera question entre autres de la naissance des guignols de l'info. C'était en 1990. 5h22 sur Inter. Dans un instant, l'humour de Charline Vanhoenacker. Mais tout de suite, une affaire de famille. Les Souchon, père et fils, chantent « À quoi tu penses ?»
Tu penses, à quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses, à quoi tu penses? Est-ce qu'un jour c'est fini? Fini la comédie. Chanter après minuit, place de la mairie. Les premières rumba la nuit, un dernier tango à Paris. Est-ce qu'un jour c'est fini, fini?
Les nuits de larmes, les jours de fête,
moi je les garde dans ma tête.
Les nuits de larmes, les jours de fête,
moi je les garde dans ma tête. À quoi tu penses, à quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses, à quoi tu penses? À quoi tu penses, à quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses, à quoi tu penses? Sept ans de réflexion, une robe qui vole. Sept ans de passion, on pleure, on rigole. Sur le piano du salon, chercher des paroles. Faire des chansons, console.
Les nuits de larmes, les jours de fête,
moi je les garde dans ma tête.
Les nuits de larmes, les jours de fête,
moi je les garde dans ma tête. À quoi tu penses, à quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses, à quoi tu penses? À quoi tu penses, à quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses, à quoi tu penses?
C'était mieux avant, même si c'est pas vrai. J'avais tout le temps je l'avais. Chanteur à 20 ans, les cheveux emmêlés. J'étais dans le vent et ce vent m'a...
À quoi
tu penses, à quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses, à quoi tu penses? À quoi tu penses, à quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses, à quoi tu penses?
C'était Ours, Pierre et Alain Souchon dans À quoi tu penses, à retrouver en concert le 6 juin à Mamers et le 13 juin au Palais des Sports à Paris.
France Inter.
5h25, l'heure de notre rendez-vous avec Charline Vanhoenacker. Tous les matins, dans le 7-10, elle explose les faits. Et dans son viseur, lundi, les manifestations des chauffeurs de taxi contre la nouvelle tarification du transport de patients.
Alors on a bien conscience que transporter 6 millions de patients, dont la moitié en taxi, ça coûte un rein à la sécurité sociale. Mais moi je me demande, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on manque à ce point de transport sanitaire? Est-ce que ceux qui nous dirigent sont au courant que la chimio, ça se pratique en présentiel? Alors, le gouvernement doit faire des économies, donc allez, on dégraisse le transport des malades. J'espère que Bayrou ne va pas découvrir qu'on a droit à un repas chaud à l'hôpital. Donc les taxis manifestent contre la nouvelle tarification du transport de malades. Ils sont prêts à tout pour se faire entendre, même à perturber Roland-Garros. Comme si on les avait attendus pour que les Français loupent leur Roland-Garros. Et dans cette affaire, vu leur capacité à gueuler, on parle méchante. Que des taxis. Oui, je suis méchante, bien sûr, tout le monde le sait. Et dans cette affaire, vu leur capacité à gueuler, on parle que des taxis, jamais des malades. Mais vous imaginez un peu si les malades pouvaient manifester, vu leur nombre et comment ils sont habitués à lutter. Le recul de la réforme, ils l'obtiennent en 24 heures. Les patients, c'est des gens déterminés. C'est des gens, déjà, ils ont réussi à trouver un médecin. Puis un créneau pour aller chez le médecin. À partir de là, première victoire, c'est quand l'assurance maladie t'appelle. C'est bon, on a trouvé quoi? Un traitement? Non. Un lit? Non, un taxi! Ah, attendez, non, parce qu'il est en grève. Voilà. Ah, c'est vraiment une situation bancale qu'on a pérennisée. Quoi. Et apparemment, comme il y a gabegie, nos autorités ont eu la brillante idée d'obliger certains malades à faire du covoiturage dans les taxis. Allez les bouseux, allez vous faire opérer en blablacar! Non, mais ça vaut que pour les malades entre eux. Attention, si le taxi mutualise les courses avec le tout venant, ça devient délicat. Hein. Je dépose d'abord Madame Orly, elle part à Ibiza, puis je dépose Monsieur à Gustave Roussy, il part en radiothérapie. Cela dit, entre malades, c'est tout aussi gênant. Hein. Faites attention avec votre béquille, faudrait pas qu'elle tombe sur ma poche d'urine. Vous me direz, ça va se passer comme ça, désolé. Hein. Vous me direz, autant faire connaissance tout de suite en faisant du covoiturage, parce qu'une fois à destination, vous serez hospitalisé en cocouchage. Hein. On commence par partager le taxi, on finit par partager sa dialyse. C'est aussi ça le vivre ensemble, c'est pouvoir ensuite survivre ensemble. Si on va par là, il y a plein d'idées d'économies à trouver. Hein. Pour un don d'organes, un trajet en taxi offert. Allez, tu rentres chez toi gratos, tu sauves une vie. Par ailleurs, le covoiturage, ça allonge considérablement le temps de trajet. Tu rentres dans le taxi avec une tumeur bénigne, t'arrives à l'hosto, t'es en phase terminale. Tu m'étonnes que le taxi qui rentre à vide, c'est un problème, mais c'est parce que le corbillard rentre à plein. Quand t'habites à la campagne, est-ce que c'est pas déjà là que commence le débat sur la fin de vie? Le trajet pour se faire soigner, en fait. Donc sinon, l'étape d'après, les malades n'ont qu'à aller se soigner en stop. Une main pour la perfusion, il te reste une main pour lever le pouce. Le plus simple, si tu tombes gravement malade, j'irais, c'est d'entrer au gouvernement. Ministre, tu bénéficies d'une bagnole avec chauffeur, encadrée par deux autres voitures avec des flics. Et nous, on les voit traverser Paris à toute main, et je peux vous dire, ils roulent comme des ambulances.
France Inter. Charline Vanhoenacker a savouré du lundi au jeudi à 9h45 et demain sur France Inter, samedi 19h20 pour Bistroscopie. Dans une poignée de secondes, le journal.
Tous les dimanches soirs sur France Inter,
j'ai choisi des auteurs qui m'accompagnent dans la vie et me font du bien.
Sophie Marceau et ses admirations littéraires.
Dans un pareil instant qui sauve notre vie, nous devons tout simplement être contre tout ou ne plus être, et j'avais eu la force d'être contre tout.
Sophie Marceau nous lit les textes qui l'inspirent.
L'expérience dont il fait le récit dans ce livre m'a évoqué mes propres souvenirs.
Les admirations littéraires de Sophie Marceau, c'est ce dimanche à 19h sur France Inter.
Il est 5h29 sur France Inter. Ali Badou vient d'arriver dans ce
Bonjour
studio.
Bonjour Marion.
Bonjour pour un avant-goût du 6-9 au programme aujourd'hui.
À 6h20, votre invitée sera Zuli Khattar. Elle est poétesse, réalisatrice et auteure d'une série Elle Sardine qui sera disponible dès lundi sur Arte.tv. Oui. À 7h50 et avant le congrès du PS qui désignera le prochain premier secrétaire, Gilles Candard, historien spécialiste de l'histoire du socialisme, viendra nous raconter l'histoire mouvementée, toujours agitée de ces congrès socialistes. Et à 8h20, rendez-vous avec Isabelle Autissier, la légende de la voile, la première femme à avoir accompli un tour du monde à la voile en solitaire, présidente d'honneur de la fondation WWF France. Et elle est l'autrice de La fille du grand hiver, une grande traversée aux éditions Paulsen. Voilà pour le programme.
Et oui, à tout à l'heure. À France Inter, il est 5h30. Le journal, Tristan Barraud. Bonjour Tristan.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Et à la une, l'Ukraine qui se dit prêt, comme il y a deux semaines, à négocier avec la Russie.
À Istanbul, en Turquie, en vue de la fin de la guerre, les autorités ukrainiennes espèrent que les discussions seront constructives, mais attendent toujours avant d'obtenir les conditions de Moscou pour l'arrêt des combats. Le Kremlin affirme pour l'instant ne pas avoir reçu de réponse de la part de l'Ukraine. Pendant que sur le terrain, les armes ne se taisent pas, l'armée russe continue de progresser, notamment dans le Donbass. Les civils ukrainiens forcés de se déplacer toujours plus loin de chez eux. Reportage France Inter de nos envoyés spéciaux au sud de Kramatorsk, Agathe Mahué.
On entend le grondement de la guerre par la fenêtre du dortoir. Olena se redresse sur la couchette du bas d'un lit superposé. C'est le sien depuis deux mois déjà, quand elle a quitté sa ville, Toretsk, conquise depuis par les Russes.
Là-bas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de ville. Il ne reste que des ruines.
Olena a 68 ans et tout ce qu'il lui reste est posé près de ce lit, sur une table d'écolier. Cet abri de Drouchkivka était avant la guerre une école maternelle. Mes médicaments, dit-elle, des chaussures, quelques chemises. Et elle pleure en silence.
C'est très douloureux. Me voilà comme une sans domicile fixe. Ça me brise le cœur.
Olena n'a nulle part où aller. Sa fille unique est morte il y a 4 ans. Natalia, de l'autre côté du dortoir, partage sa solitude. Elle a 64 ans et ses affaires dans 5 sacs plastiques. Après une année à vivre dans le sous-sol de sa maison à Tchassiviar, l'autre grande conquête russe de ces derniers mois.
Quand une frappe a touché mon jardin, je me suis décidée à fuir. Sinon, j'ai compris que j'allais y rester.
Natalia regarde au dehors et écoute, ça cogne pas très loin, à quelques kilomètres.
Ça fait peur, même si on a l'habitude. Le front se rapproche, on l'entend de plus en plus.
Elle comprend qu'il faudra sans doute quitter cet abri, partir encore un peu plus loin des combats. Les yeux humides, Natalia dit qu'elle pense à son chat, ses chiens, à son chez-elle là-bas, et qu'elle a mal au cœur.
Reportage de nos envoyés spéciaux en Ukraine, Agathe Mahué, Hélène Langlois et Yachar Fazilov. Israël annonce de nouvelles colonies en Cisjordanie, 22 nouvelles localités dénoncées par la communauté internationale, par Londres, par les Nations Unies qui appellent Israël à cesser toute extension illégale au regard du droit international et un obstacle à la paix. Si cette situation ne change pas, la solution à deux États sera physiquement impossible, s'inquiète l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient. Israël qui a validé une proposition américaine de cesser le feu dans la bande de Gaza, le Hamas examine la réponse à donner, mais estime d'ores et déjà qu'elle ne répond pas à ses demandes. L'arrêt de la guerre et de la famine.
5h33 sur France Inter en France. Ils ne connaissent pas leur origine et réclament une réforme.
Chaque année, entre 500 et 600 femmes accouchent sous X. Ça veut dire qu'elles laissent leur nouveau-né au service de l'État. La France est l'un des rares pays à l'autoriser. Des enfants qui ne savent rien de la personne qui les a mis au monde. Ils veulent que ça change. Alice Cachaner, parce qu'au quotidien, c'est une souffrance.
Oui, c'est le cas d'Anne-Laure, abandonnée à la naissance puis adoptée. Ne pas connaître l'identité de sa mère biologique l'a hantée de nombreuses années.
Qui je suis, d'où je viens, pourquoi on n'a pas voulu de moi, voilà.
35 années d'interrogation et de souffrance.
Beaucoup d'anxiété, dépression, pas mal d'alcool. Et vous n'avez pas aucune réponse.
Aucune réponse de l'administration, car aujourd'hui, un enfant né sous X peut obtenir l'identité de sa mère biologique seulement si cette dernière y consent. Anne-Laure décide alors de contourner la loi en réalisant un test ADN.
J'ai enfin pu connaître mes racines, mon histoire. J'ai démarré, je suis née.
Alors on a beaucoup parlé des tests ADN, mais c'est un instrument redoutable.
Éric Pilardeau, cofondateur du collectif des Nés sous X, d'ici et d'ailleurs.
Et même s'il est interdit en France, il y a quand même 150 000 à 200 000 personnes en France qui le font chaque année. Jamais plus maintenant, on ne peut promettre un anonymat à vie.
Le collectif réclame une réforme, passer des accouchements sous X aux accouchements dans la discrétion.
On s'engage à un anonymat de sa personne jusqu'à l'âge de la majorité de son enfant. Elle doit laisser aussi, et ça c'est primordial, tout ce qu'il y a en rapport avec les données de santé.
Un système qui permettrait, d'après le collectif, un meilleur équilibre entre l'intérêt de la mère biologique et celui de l'enfant.
Alice Cachaner, loin des enfants doit être la cigarette. À partir de cet été, 1er juillet, il sera interdit de fumer sur la plage, dans les jardins publics ou près des écoles. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, veut une génération sans tabac dès 2032. Les contrevenants s'exposeront à une amende de 135 euros. La Ligue contre le cancer applaudit une action importante qui va permettre d'éviter un mimétisme des jeunes. Le tabac est la première cause de mortalité en France.
C'était le journal de Tristan Barraud. Allez vite vous coucher, Tristan, pour pouvoir ensuite profiter de cette belle journée estivale qui démarre. Ce matin, le ciel est encore encombré sur la Bretagne et la Normandie, mais ça va se dégager au fil de la matinée. Partout ailleurs, la journée s'annonce donc belle, ensoleillée, il va faire chaud, mais les orages arrivent déjà. Attention aux averses orageuses en fin de journée sur les Pyrénées et le sud de l'Aquitaine. Le vent de sud-ouest reste sensible sur le Nord-Pas-de-Calais. Le vent tourne à l'ouest sur la côte aquitaine et se renforce dans la soirée sur le Pays Basque, les Landes et les Pyrénées. Côté thermomètre, donc, ça grimpe. Il fera 10 à 18 degrés ce matin, 18 à 36 cet après-midi. 20 à Cherbourg, 22 à Brest, 27 à Ajaccio, 28 à Nancy, 29 à Marseille et Strasbourg, 30 à Perpignan, 31 à Paris, Lyon et Biarritz, 33 à Clermont et 34 à Toulouse.
Le 5-6 sur France Inter.
Et c'est l'heure de foncer dans la playlist de Mathieu Conquet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Ce matin, vous nous parlez de moto et d'une chanteuse qui était à l'honneur lors de la dernière cérémonie des Flammes et que l'on suit de près ici sur France Inter.
Et vous l'entendez, on fait chauffer les moteurs jusqu'au rupteur avec la Daïs.
Cache tôt, beaucoup ça, et son vie la nuit, 7 sur 7, avec ma puta, et mes chauves-souris, balèze comme Bouddha.
On vit la nuit avec des chauves-souris, ouais. Ou le désir déplié sous une lumière noire. Lala Ace revient en plein Roland-Garros. Bah oui, son surnom vient de là, hein, du service gagnant au tennis. Lala Ace. Et pourtant, c'est un autre sport qui semble captiver Mélanie Lala Ace tout en vitesse. Si je vous dis Marion, casque, essence, cuir noir, gros cylindré,
moto,
vous me direz.
Born to be well.
Voilà. Et en France ces derniers temps, en plus de pilotes champions comme Johan Zarco qui a gagné le Grand Prix du Mans récemment, il faut dire qu'on entend beaucoup de motos et son ronron chez les chanteurs qu'on suit ici sur Inter. Premier exemple de celui qui enfourche dès qu'il peut pour s'évader.
Je tourne la poigne, je froisse le temps.
Eh oui, c'est Yamé.
Je roule comme si caca m'attend. Je cale le pétard entre mes dents. Bah ouais. Chant la bécane, di-di-di-de-de. J'fous la beuh.
Bah ouais.
Eh ouais.
Un tour en bécane avec Yamé,
qui est vraiment un fou de moto. Je l'ai rencontré cette semaine pour la sortie de son prochain album. Il me parlait de T-Max, de moto électrique, d'une BMW RT qu'il aimait conduire. Voilà. Autre exemple avec Éloi, la jeune Éloi, qui vient de sortir un clip pour son morceau Rugir moteur. Là, tout est dans le titre. Et dans cette idée de la vie comme un rodéo. Et puis, il y a 3 ans, des motos, des rodéos étaient déjà partout, souvenez-vous.
Alors on reconnaît Mathieu Rosalia et l'album Motomami, mais
oui.
Quel est le rapport avec les Français?
C'est un réalisateur français, Valentin Petit, que Rosalia avait choisi pour son sens du mouvement et qui signait ce clip avec des motos, des stunteuses, hein, des pilotes, des cascadeuses motos. Et on en revient à Lala Ace et à son Biaga, un titre avec des sons de moteur produits par DJ Lewis. Il a travaillé notamment avec Drake pour un son plutôt, vous allez l'entendre, Baile Funk. Et le titre vient de là, BH, Biaga. En brésilien, c'est le surnom de Belo Horizonte, la ville qui a son propre style de funk. Et si l'on voit surtout des motocross et des quads dans le clip, il y a vraiment de quoi s'évader, rien qu'avec la voix de Lala Ace.
Cache-toi beaucoup ça et son vie la nuit. 7 sur 7 avec ma puta et mes chauves-souris. Balèze comme Bouddha. Toute la nuit je prie, ferme les yeux. Elle veut, je mets les doigts. Faire un mien. Cache-toi beaucoup ça et son vie la nuit. 7 sur 7 avec ma bouta et mes chauves-souris. Balèze comme Bouddha, toute la nuit je prie. Ferme les yeux, elle veut je mets les doigts. Faire un Miami. Tu veux tourner, tourner, tourner tout le temps. Tu veux tourner, tourner, tourner sous le vent. MJ fais-moi la con, refais doucement. J'prends ma caisse et puis je fous le camp. J'fais Pentago mais c'est de la triche. J'ai pas le temps, moi je vais être triche. J'aime pas les questions, c'est bon t'as raison. J'ai pas Bumper qui sur la corniche. J'étais dans le bang, j'écoutais du Chopin. Il veut me test, il veut que j'en chope un. Faut conquérir l'univers, sous la Montclair en hiver. Cash, top, beaucoup ça. Et son vie la nuit, 7 sur 7 avec ma puta et mes chauves-souris. Balèze comme Bouddha, toute la nuit je prie. Ferme les yeux, elle veut je mets les doigts. Père à Miami. Cash, top, beaucoup ça. Et son vie la nuit, 7 sur 7 avec ma puta et mes chauves-souris. Balèze comme Bouddha, toute la nuit je prie. Ferme les yeux, elle veut je mets les doigts. Père à Miami.
Biaga de Lala Ace a retrouvé dans la playlist de France Inter. Vous êtes à fond, Mathieu.
C'est le moteur.
Elle sera pas chez vous, mais on l'a entendu de nombreuses fois déjà dans votre émission. Au menu ce soir,
du body language avec Ezra Collective, les Sparks, le nouveau Damso, et puis une série fantastique à voir sur Arte. Il y a plein de musique dans Small Axe. Et je remets le son. À ce soir, à 21h.
À ce soir. Et pour l'instant, il est 5h41 et une question dans le Zoom ce matin. Y aura-t-il plus de femmes élues aux élections municipales de l'année prochaine ? Aujourd'hui, un maire sur cinq et 42% des conseillers municipaux sont des femmes. On est loin, loin de l'équilibre. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
Vous avez assisté à Lille à une journée de formation réservée aux élus locaux des Hauts-de-France. C'était l'occasion pour elles de partager leur vécu et d'évoquer entre femmes les freins qui existent encore.
L'idée, c'est de pouvoir faciliter l'échange de pratiques.
Une quinzaine de chaises en arc de cercle, dans cet atelier consacré à la mise en lumière de son bilan, sont assises une maire, une première adjointe, des conseillères municipales d'opposition, et pour démarrer un exercice, donner sa météo personnelle en tant qu'élu local.
Extérieurement, c'est canicule, mais intérieurement, c'est l'orage. Je me pose beaucoup de questions, effectivement.
Voilà. Vient le tour de Virginie Ardance.
Maire de la commune de Fayet, dans l'Aisne, donc toute petite commune de 700 habitants.
C'est son troisième mandat. On la retrouve un peu plus tard pour évoquer ses débuts inattendus en politique.
On est venu me chercher pour la parité. Le maire qui était en place souhaitait avoir des femmes dans son conseil municipal. Et j'étais sa voisine et il s'est dit, tiens, pourquoi pas, ça pourrait être bien juste en tant que femme. On n'est pas venu me chercher en compétence, on est venu me chercher en tant que femme. Comme beaucoup de femmes en politique, on se demande si on est légitime, si on va y arriver, parce que nous, on se remet toujours en question.
Comme elle, beaucoup de femmes élues témoignent de ce sentiment de devoir prouver plus que leurs homologues masculins. Julia Mouzon est la fondatrice d'Élus Locales, un réseau créé en 2012 qui propose ces formations où l'on évoque autant la visibilité politique que les clés pour rédiger un discours.
Au-delà de la parité quantitative, on doit aller sur la parité qualitative. Est-ce qu'on confie aux femmes les mêmes responsabilités qu'aux hommes ? Et est-ce qu'on valorise autant les délégations qu'on va attribuer, entre guillemets, par défaut ou systématiquement aux femmes ? Voilà. Se dire que la petite enfance est aussi importante que l'urbanisme, voire même peut-être plus.
Et c'est bien ce qui pêche. Même élues en nombre, les femmes accèdent trop rarement aux postes à responsabilité.
Ah oui, les lois sur la parité en place depuis les années 2000 sont loin d'atteindre leur objectif. Alors, sur le terrain, les élus tentent de faire bouger les choses avec plus ou moins de réussite, Jérôme.
Oui, quand elles doivent jongler avec leur vie de famille, leur carrière professionnelle, leur mandat, la commune de Margny-les-Compiègnes dans l'Oise a adopté une solution originale pour ses élus, un système de garde pour les enfants payé par la mairie. Zadie Blanc est l'adjointe chargée de l'urbanisme et du développement économique.
Je suis maman de 3 enfants. Je sais que je peux me libérer le soir, le week-end. Ça, c'est un obstacle en moins. Ça veut dire que les femmes peuvent se consacrer à leur mandat sans être inquiétés de savoir comment faire garder leurs enfants jeunes.
Mais les contraintes sont souvent plus pernicieuses, notamment en milieu rural. Plus les communes sont petites, moins les femmes sont représentées et loin d'être valorisées. Expérience vécue par Marie-Sophie Laine, maire depuis 11 ans du Quesnois dans le Nord.
On ne prend pas de gants, quoi, hein, en zone rurale où on y va, les couteaux dans le dos, la façon de chuchoter quand vous prenez la parole ostensiblement. En fait, ça blesse, quoi.
Hors micro, une élue s'inquiète aussi de la recrudescence du sexisme en politique, ce que confirme Julia Mouzon, la présidente du réseau élu local.
On a mené, nous, dans le réseau, une enquête en 2021. 75% des femmes élues disent qu'elles ont été victimes de violences sexistes ou sexuelles au cours de leur mandat. À 80% par le fait de collègues élus. Donc on a encore beaucoup de progrès à mener sur ce sujet du sexisme et donc de la parité en politique.
Avec une conséquence, le renoncement. Beaucoup de femmes préfèrent jeter l'éponge, s'inquiète Françoise Rossignol, elle-même maire à Dainville dans le Pas-de-Calais et secrétaire générale de l'Association des maires du département.
On est encore dans une société où la femme accepte un peu plus facilement l'engagement de son mari que l'inverse. Je le ressens quand je fais le bilan d'un certain nombre de femmes dont on sentait qu'elles avaient du potentiel, puis qui tout d'un coup viennent vous dire « ah ben non, j'arrête ».
Ce qui va sans aucun doute poser un problème pour le scrutin de mars prochain. Une loi récente impose la parité stricte pour toutes les communes, y compris celles de moins de 1000 habitants.
C'était le Zoom de Jérôme Val à retrouver sur l'application Radio France. Il est 6h moins le quart sur France Inter. C'est l'heure de contacter notre invitée déjà debout qui est éleveuse de brebis dans le Cantal. Bonjour Alice Telloni.
Bonjour.
Alors ce n'est pas la première fois que vous êtes notre invitée déjà debout, c'était déjà le cas il y a 2 ans. Pourquoi vous êtes encore déjà debout à cette heure-ci?
Eh bien parce que je suis toujours dans le Cantal avec mon mari à traire nos brebis et voilà, j'avais envie de vous présenter un événement un peu particulier qui a lieu demain soir à la ferme.
Et on va en parler évidemment, mais je voulais savoir d'abord, rappelez-nous quand même, à quoi elles ressemblent vos matinées d'éleveuse, vos petits matins?
Nos petits matins commencent vers 5h, 5h30 et on se rend directement dans la bergerie pour traire nos brebis. Donc on en traite une bonne cinquantaine qu'on traite à la main et directement après la traite, on fait le fromage qu'on va ensuite affiner dans une cave naturelle, c'est l'ancien four à pain de la ferme. Et là on va laisser les fromages s'affiner pendant au moins 1 mois et demi, 2 mois.
Alors c'est une bonne quantité, hein, 6 kilos de fromage par jour.
Oui, tout à fait. Grâce à 50 brebis, on peut faire 6 kilos de fromage. Donc oui, c'est des bonnes laitières. Et voilà.
Et vous avez un label bio, c'est important ça pour vous?
Oui, pour nous c'est important ce label, parce qu'il défend nos valeurs, nos convictions. Et voilà, c'est un label qui nous tient à cœur et sur lequel on a envie de communiquer, notamment lors des visites à la ferme, quand on reçoit voilà, des gens qui passent pour visiter.
Alors, je voulais vous poser la question, puisque vous êtes là, et évidemment, avant de parler de cet événement, de ce concert que vous allez nous raconter. Vous qui avez ce label bio, comment est-ce que vous voyez la baisse des budgets de l'agence bio? Est-ce que ça va vous toucher ou pas l'année prochaine?
Ah oui. Oui, complètement. Oui, c'est catastrophique, c'est honteux et ça me met très en colère. Donc, on est mobilisé au niveau de l'association Bio 15, hein, qui est en lien avec la FNAB, parce que bah voilà, ça nous touche nous directement les agriculteurs, mais ça touche aussi tout le monde, les consommateurs, parce qu'ils seront moins bien informés et ils auront moins accès à une nourriture de qualité qui préserve quand même la nature, l'environnement et notamment la qualité de l'eau.
Pour vous, ça veut dire moins de subvention?
Là, je pourrais pas vous dire précisément là dans l'instant, mais dans tous les cas, moins de communication, ça c'est embêtant, ça c'est grave.
Oui. Parce que c'est aussi un atout de vendre un fromage qui a ce label-là.
Oui, complètement. Oui.
Bon alors, votre ferme, c'est une ferme Terre de Liens. Ça veut dire quoi Terre de Liens?
Alors, ça veut dire que c'est une association qui a une foncière qui est propriétaire du foncier. Donc nous, on exploite 36 hectares qui appartiennent à Terre de Liens.
Mais vous
donc,
êtes locataire.
Mais nous sommes locataires et nous serons locataires à vie. C'est des terres qu'on ne pourra jamais acheter. Et l'avantage de ce système-là, c'est que ça nous a permis de nous installer. Sans Terre de Liens, on n'aurait pas pu s'installer. Et ça nous permettra aussi de transmettre la ferme le jour où on partira. Le capital ne sera pas délirant. Ce sera l'équivalent d'une maison en lotissement pour avoir un outil de travail de qualité.
Ça permet de contourner en quelque sorte les chambres d'agriculture qui sont parfois tenues par des syndicats aussi qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que les vôtres.
Oui, entre autres. Et puis, ça permet vraiment de répondre à l'un des principaux freins dans l'installation dans le monde agricole quand on veut s'installer, c'est l'accès au foncier. C'est vraiment, vraiment le principal frein.
Donc, pouvoir avoir une terre, tout simplement. Vous prévoyez justement, alors on en parlait de cet événement demain, pour faire connaître ce concept de terre de lien, en quoi ça va consister alors ?
Eh bien, ça va consister à une soirée, un concert de jazz qui va avoir lieu dans la grange, puisque notre grange est vide, il n'y a plus de foin dedans. Il va falloir attendre début juillet pour la remplir de foin. Et en attendant, on a un très bel espace.
Oui.
Terre de Liens va être présent pour parler de l'association. Et puis, il va y avoir donc un concert de jazz, une première partie avec l'association Jam de Jazz d'Aurillac. Et ensuite, un trio, une chanteuse de la vallée Chloé Trideau, ainsi qu'un saxophone. Et c'est une participation libre. L'idée, c'était vraiment à la fois de fêter les 7 ans de la ferme, parce que ça fait 7 ans qu'on est là, qu'on fait ce métier, qu'on l'aime, et puis aussi d'inviter tous les gens du territoire du Cantal, du village, de Thiézac, à venir passer une belle soirée ensemble.
Et vous en profiterez pour expliquer justement ce concept de terre de lien, donc qui permet aux agriculteurs comme vous d'avoir des terres. C'est ouvert à tout le monde ?
Oui, c'est ouvert à tout le monde, tout à fait, que ce soit des gens d'ici ou des gens de passage. On sera ravis de les accueillir et de partager un moment ensemble de convivialité, parce qu'on en a envie, on en a besoin, et pour nous c'est très important.
Donc quoi, il suffit de toquer à la porte de votre ferme en quelque sorte.
C'est ça, tout à fait, quelques virages, et vous êtes la bienvenue si vous êtes de passage. Oh,
j'aimerais bien, mais je travaille ce week-end moi.
Bon.
Merci en tout cas Alice Téjouni, agricultrice à Thiézac dans le Cantal, merci beaucoup d'avoir été notre invitée déjà debout. Bon concert demain, je rappelle, donc samedi 31 mai, 20h, ferme de La Molède, et c'est donc à Thiézac dans le Cantal. Allez, à 5h51 sur France Inter, on remonte loin dans le temps avec les petits bateaux. Sacha a une question dinosaure pour Camille Cronier et son invité. Et coucou les petites curieuses et les petits curieux. Oh là là, catastrophe en vue.
Bonjour, je m'appelle Sacha. Je voudrais savoir comment tous les dinosaures on fait pour être mort à cause de la météorite qui est tombée sur la Terre. J'ai 5 ans. Au revoir. Merci. J'espère que ma question est passée. Bisous.
Eh ben bisous Sacha, tu vois ta question elle est passée, on est ravis de pouvoir te répondre dans les petits bateaux. Comment tous les dinosaures ont fait pour être morts à cause de la météorite qui est tombée sur la Terre ? Ta question, eh bien Ronan Alain vient de l'entendre, il est paléontologue, donc il est spécialiste justement de dinosaures au Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est à vous.
Alors Sacha, effectivement, il y a 66 millions d'années, on sait depuis les années 1980 qu'il y a un énorme caillou, donc une météorite qui est tombée sur la Terre, une météorite qui devait faire près de 14 km de diamètre. Et cette météorite, elle est tombée au niveau d'un pays qui s'appelle le Mexique aujourd'hui. Et 14 km de diamètre, ça a provoqué une effroyable explosion, des raz-de-marée. Puis il y a eu aussi probablement des grands feux de forêt qu'on a enregistrés en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Et puis ça a fait un énorme nuage de poussière. Ce nuage de poussière, il est monté très 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 haut dans l'atmosphère. Ça a obscurci les rayons du soleil et donc il y a dû avoir ce qu'on appelle un hiver nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a eu une rupture de la photosynthèse qui permet de faire vivre les plantes. Les plantes n'ont pas pu continuer donc à faire cette photosynthèse. Et donc voilà, ça a eu une répercussion sur tous les végétaux, sur tous les animaux.
De la terre entière.
De la terre entière, et ça a fait disparaître beaucoup d'entre eux, mais pas tous. Alors parmi ceux qui ont disparu, il y a les dinosaures. Alors pas tous les dinosaures, les oiseaux ont continué à vivre.
Parce que les oiseaux sont des dinosaures, Ronan.
Les oiseaux sont des dinosaures, et justement, probablement que la petite taille de ces oiseaux, le fait qu'ils soient protégés du froid par un plumage, a sans doute contribué à leur survie. Mais on a beaucoup de mal à comprendre pourquoi certains animaux ont disparu et pourquoi d'autres n'ont pas disparu. Parce que quand on pense à cette extinction, on se dit toujours pourquoi les dinosaures ont disparu. Mmh. Mais il faut penser qu'il y a des petits animaux qui ont disparu. Par exemple, au milieu des océans, à cette époque-là, il y avait des tout petits organismes dans le plancton. Des petits organismes planctoniques qui ont disparu aussi. Et on ne peut pas expliquer la disparition d'un organisme planctonique comme on explique la disparition d'un dinosaure.
Mais alors pourquoi on parle toujours des dinosaures ? Parce que c'est des espèces emblématiques ou pas ? On oublie ce petit plancton dont vous nous parlez par exemple ?
On oublie ce petit plancton, mais il y en a qu'on n'oublie pas. Je pense que là, il y a des animaux aussi assez emblématiques. Il y a les ptérosaures qui vivent à côté des dinosaures, qu'on met souvent dans les dinosaures, qui sont les reptiles volants, les ptérosaures. Et dans les océans, il y a un groupe que tout le monde, beaucoup de gens connaissent, qu'on appelle les ammonites par exemple. Les ammonites, ça ressemble à des escargots, et donc ces ammonites-là, il y en avait partout, ils ont survécu à 3 extinctions, mais elles n'ont pas survécu à celle-là. Donc quand on a des extinctions de masse de cette ampleur-là, en fait, on a une part de hasard, et on a beaucoup de mal à comprendre la sélectivité des extinctions.
Encore plus difficile quand on n'a que certains fossiles datant de dizaines de millions d'années pour faire l'histoire. Chapeau les paléos, et salut les matelots.
Les petits bateaux. À retrouver quand vous voulez sur l'appli Radio France.
Et salut Camille Crenier, à tout à l'heure 20h.
France Inter. Le 5-6.
Et c'est l'heure d'un café philo en famille avec vous. Bonjour Patricia Martin.
Bonjour Marion Lourd.
Et au programme ce matin, la fratrie.
Oui, et qui de mieux pour en parler que deux frères? Et si tu crois qu'ils sont philosophes, eh bien ce sera parfait.
Ah oui.
C'est le cas des frères Cusset, ils m'en voudront pas de les nommer ainsi, François et Yves. Ils seront ce soir nos invités pour évoquer cette drôle d'intimité qui consiste à avoir été élevé dans une même famille et être né des mêmes parents. Mmh. Alors vous me direz qu'on n'est pas censé bien s'entendre au simple prétexte on est frère ou sœur du reste. C'est même un petit miracle quand ça arrive.
C'est pourtant bien leur cas, d'après ce que vous venez de nous dire.
Absolument, et du reste, je ne pense pas qu'ils auraient accepté de venir ensemble s'ils étaient fâchés. Mais à l'heure où bien des familles se déchirent, et ne soyons pas naïfs, ça a toujours existé, il est bon de réfléchir à ce que signifie être membre d'une même entité. La philosophe Sophie Galabru nous fait part à la fois de son analyse et de son expérience.
Je pars plutôt d'un écart qui existe entre la famille de rêve et la famille vécue, ou la famille promise et celle qu'on vit vraiment. Et il y a un écart qui peut susciter des frustrations, des déceptions. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Et je pense que c'est surtout lié au fait qu'on mystifie beaucoup l'idée de famille, c'est-à-dire qu'on lui demande d'assurer parfois des missions ou de remplir des idées, des images qu'elle ne peut pas remplir. C'est-à-dire, par exemple, l'idée que la famille devrait être un centre où nous sommes tous unis,
oui,
en union,
oui,
et on confond union avec uniformité, c'est-à-dire qu'on ne supporte pas que des individualités puissent exister. Et donc le commun doit prendre le pas sur tout, ce qui peut créer des frictions, des incompréhensions, des tristesses.
Ça...
Surtout, au XXe siècle, la famille, c'est devenu un lieu où des individualités doivent s'articuler entre elles, coexister, cohabiter ensemble, ce qui est un exercice extrêmement difficile, et qui ont des aspirations qui ne sont pas forcément celles du commun, du projet parental. On ne s'identifie pas forcément à ses parents ou à ses ancêtres, on peut être en dissidence avec eux.
On peut être en dissidence, mais il n'empêche, la famille reste la valeur numéro un chez les jeunes.
Et pour en revenir à notre point de départ, Patricia, la fratrie, on peut dire qu'entre la fratrie et la fraternité, il n'y a qu'un pas.
Mais vous avez tout à fait raison, Marion. La fraternité, c'est ce lien de solidarité qui devrait unir, au fond, tous les membres de la famille humaine. Il pourrait exister un fait originel de la fraternité, ce lien antérieur à toute chose, comme le disait Lévinas. Et après tout, la fratrie, tout comme la fraternité, c'est la première expérience que l'on fait de l'altérité.
Et de tout cela, vous allez parler ce soir donc avec François Cusset et Yves Cusset qui seront vos invités dans leur philo. François Cusset publie un livre qui sort le 19 juin prochain qui s'appelle Petit Musc aux éditions des Buscla. C'est une histoire inspirée par Elon Musk et qui se passe au Moyen-Âge.
C'est
très
drôle.
Assez gratiné.
Oui.
Quant à Yves Cusset, on pourra le voir sur scène pour deux spectacles philosophiques au Festival d'Avignon en juillet et ensuite à Paris. Toutes les dates sont bien évidemment sur le site de leur philo. À ce soir.
À ce soir, merci Marion.
20h05.
France Inter présente...
Bonjour, moi c'est Aïdan. Je te parle depuis l'autre bout de l'univers, depuis une planète secrète. Si, comme moi, tu aimerais voyager par-delà le ciel, par-delà les étoiles, alors viens, écoute-moi. Je vais te faire survoler des mondes, plonger dans des étoiles, tomber dans un trou noir.
Les explorateurs de l'univers... Christophe Galfard.
Pour commencer ton aventure, il te suffit de télécharger mes podcasts sur l'application Radio France.
Avec France Inter, un podcast par jour, des acquis pour toujours.
5h58.
La météo, avec le Boom Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Une journée chaude et presque estivale, Élodie Calac.
Une journée estivale, comptez 10 à 14 degrés au nord ce matin, 12 à 17 au sud, jusqu'à 20 en Méditerranée. Cet après-midi, la chaleur va s'accentuer. Les 30 degrés vont progresser vers l'intérieur de la Bretagne, la région parisienne et la Bourgogne-Franche-Comté. Vous aurez 26 à 32 degrés sur la moitié nord, un petit peu moins vers la Manche, 20 à 26. Au sud, 30 à 34 degrés attendus, des pointes jusqu'à 35 voire 36 sur le sud-ouest et plutôt 25 à 29 entre la Côte d'Azur et la Corse. Tout ça sous le soleil. Alors patience tout de même ce matin, il y a des grisailles de la Bretagne à la frontière belge. Ça ne va pas durer. Le soleil va revenir cet après-midi. En revanche, des nuages vont s'inviter près de l'océan. Une ondée sera possible vers l'Aquitaine et ça deviendra orageux sur les Pyrénées, puis le sud de l'Aquitaine en fin de journée.
Élodie Calac de Météo France.